et je vous remercie aussi les uns les autres d'avoir non seulement rattrapé le temps, mais même gagné un petit peu de temps, c'est de pouvoir débuter un échange entre vous et un échange avec la salle. Alors autour d'une question qui était très provocatrice, qui est très très provocatrice, puisque, et je ne sais pas si on sera uniquement sur cette question dans l'échange, qu'est-ce qu'il ne faut plus apprendre à l'école autour de cette question de la programmation, de l'informatique dans une école qui effectivement est entrée et qui change avec le numérique. Vous savez que c'est un des éléments de langage que nous avons, parce que si nous sommes conscients qu'il y a différentes manières d'apprendre, différents contextes d'apprentissage, et j'ai beaucoup aimé la question de donner du sens plutôt que de donner du signe pour commencer. J'ai beaucoup aimé aussi la question des apprentissages en contexte, parce que connaissant une partie des collègues qui sont aussi dans la salle, on sait très bien, quand on adresse en politique publique, que nous n'avons pas sur tous les points du territoire, et nous n'avons pas ce fantasme non plus, je dirais, si nous avons des cadres nationaux, des référentiels nationaux, des curricula qui effectivement sont là pour donner aussi de la cohésion, et de la cohésion sociale, de la cohésion dans les apprentissages, nous n'avons pas, la certitude que tout le monde est équipé de la même manière, peut fonctionner avec les mêmes débits au même moment. Et d'ailleurs, nous avons aussi un autre point qui est toujours au cœur de nos politiques, y compris lorsque nous mettons à disposition et des matériels et des ressources. Nous savons que nous devons accompagner, expliquer, dire le pourquoi, donner le sens, puisque la liberté pédagogique, je dirais, de ce qui se passe dans la classe reste primordiale aussi pour nous. Donc, j'espère que ce n'est pas une aporie, mais que nous pouvons effectivement avoir tous ces éléments à la fois. Je laisse la parole à Roberto Casati pour entamer, et ensuite je pense qu'on entame la discussion et puis prendre des questions de la salle si vous le voulez bien.
Merci. La question de l'apprentissage, là je suis un peu plus compétent. Donc je vais juste, pour la carte de visite, on a créé avec Daniel Angler et Elena Pasquinelli, de la main à la pâte, un module de l'EHSS, ENS et Paris 5, éducation cerveau-cognition, dans laquelle on évalue différents problèmes liés à l'apprentissage, et notamment l'apprentissage dans les contextes numériques. Donc on va publier là-dessous. Je suis d'ailleurs financé dans un projet EFRAN. Vous connaissez EFRAN, donc c'est un projet qui s'appelle Parcours Cornetté, qui évalue les rythmes d'apprentissage. Il y a des rythmes d'apprentissage qui semblent être plus utiles que d'autres pour la rétention à long terme de l'information sur une plateforme numérique, une plateforme qui s'appelle Educanti. Donc là, je rentre un peu dans le domaine que je connais un peu mieux que les codages, et c'est à cette étude que je vais intervenir. Deux points. Je fais amende honorable sur la liste que je présentais tout à l'heure, donc la liste Citizen Coder, les citoyens informés et les startups. Je vais rajouter, je fais amende honorable, juste rajouter un quatrième objet à cette liste qui vient de la présentation de Madame Maquet. Je parle des noms. Donc il ne faut jamais faire des blagues dans une langue qui n'est pas la sienne. Mais je vais quand même essayer, parce que je voulais faire un calque sémantique ou morphologique sur animalier. L'animalier, la personne qui s'occupe des animaux, vous connaissez ça de votre expérience de psychologue, il faut spécifier en France, psychologue expérimental.
Oui, je pense que c'est
important.
Ça, mais
c'est pas un jeu clinique. L'animalier, c'est la personne qui est capable d'interagir avec les animaux. Ordinaturier, interfacier, c'est la quatrième figure professionnelle que je mettrai sur la liste, qui est très importante en fait, très importante, et j'insiste, il faut savoir quel est le but de notre schéma d'éducation. Il ne faut pas simplement prendre des éléments qu'on trouve à gauche à droite sur le web pour décider qu'il faut apprendre telle ou telle autre chose. Il faut savoir quelle est la normativité. Monsieur Gauthier, vous faites un exposé, et vous dites que vous ne prenez pas position, mais votre exposé est totalement normatif. C'est normatif du bout en comble, ce n'est pas simplement un constat. Vous êtes en train de dire que parce que vous constatez que la petite fille fait le geste de shiftage, comment ça s'appelle
Sliding.
Il faut aller vers une éducation qui tient compte de cette anecdote. Et là, c'est finalement à discuter. Je vais même rajouter dans le sliding. Sliding, ça s'appelle
Swiping.
Le balayage. Ma fille a 5 ans. Elle a commencé à faire comme ça, en disant qu'elle cherchait des souvenirs. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à m'occuper sérieusement du numérique à l'école. Et donc, après avoir fait un amende honorable sur la question de... Je propose vraiment de rajouter, dans le but de l'éducation, est-ce qu'on est en train de choisir quelle est la normativité qui nous intéresse? On veut créer des citoyens codeurs, on veut créer des interfaciers. Ce qui est très bien, hein, mais simplement il faut être explicite sur le but de l'éducation. Sinon, on ne pourra ni avoir des politiques publiques, ni évaluer des politiques publiques. Donc il faut savoir quelle est notre normativité. Donc après avoir fait un mot honorable, je veux quand même dire un mot critique, et c'est l'oubli de l'écosystème. On nous a parlé d'écosystème, évidemment, mais l'écosystème est un écosystème très important, commercial, pour les interfaces qui sont proposées aux enfants. Dans différents contextes, et notamment le contexte qui a créé le swiping, le sliding, le balayage. Pardon. L'ordinateur a changé ces 15 dernières années. Cet ordinateur a changé. Et c'est la partie de l'histoire que Mme Mathieu n'a pas vraiment. Elle a juste.
J'ai effleuré. J'ai plus de temps.
Bien sûr, mais c'est la partie importante, parce que là, c'était l'élément pionnier des ordinateurs que vous avez montré, mais on ne voit pas la fâche cachée qu'on voit aujourd'hui. Steve Jobs est le responsable du changement, mais pas tellement pour son habileté commerciale indiscutable, ses capacités de programmateur modestes, c'est parce qu'il s'est totalement, exclusivement, obsessionnellement focalisé sur le design de ses outils. Le design des interfaces. Apple a investi pendant des années 2 milliards de dollars par an sur le design. Le design n'est pas simplement l'effet shiny, c'est le design de l'interaction. Alors, mais cet investissement sur le design était fonctionnel, parce qu'avant, les ordinateurs, c'était des choses pour des secrétaires, pour des militaires, pour des chercheurs. Après, les ordinateurs sont des objets pour des bébés.
Pour the rest of us.
Attention, le rest of us, il faut voir qui il y a dans la distribution. C'est des bébés et des personnes âgées. Ma mère, on lui a fait cadeau d'une tablette il y a 2 ans, elle m'a fait les commandes, elle remplit mon frigo d'Italie. En créant des questions, enfin des interactions sociales, belle-mère, sont difficiles. Donc elle peut faire ce genre de choses. Elle peut faire parce que Steve Jobs a déplacé tout vers le design. C'est un point important, c'est pas un point anodin de la discussion, c'est le point crucial. Il n'y a pas de génération. On est arrivé à quoi Z. Il n'y a pas de génération Z. C'est plus ou moins impossible. Il n'y a pas de génération Z dans le sens dans lequel on veut nous convaincre qu'il y a une génération Z. Il n'y a pas des enfants avec des capacités nouvelles, intéressantes, qu'il faut respecter. Ce n'est pas le cerveau des enfants qui a été changé, qui a évolué en contact avec des interfaces, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est l'inverse. C'est des interfaces qui ont changé pour être utilisables par des enfants. Je répète, parce que c'est le point crucial de mon propos et de ma critique, si vous voulez, ce n'est pas que les enfants ont développé de nouvelles compétences parce qu'ils passent toute la journée à regarder YouTube ou un temps intercalé, etc. Ils n'ont pas développé de nouvelles compétences. C'est qu'ils vont chercher ces objets, et nous aussi, parce que ces objets ont été changés radicalement pour être utilisables par le cerveau d'un enfant. Un cerveau qui réagit à tout ce qui intéresse aux designers. Et moi, je suis parfaitement convaincu que les designers doivent faire ça pour améliorer l'expérience d'usage, etc. Tout est plus simple, shiny, rapide, l'attention est détournée rapidement, pour une raison. c'est pas simplement qu'on va chercher de nouvelles parties de marché, c'est qu'il faut que les gens soient connectés en permanence. C'est ça la raison pour laquelle on a des ordinateurs qu'on connaît. On est des travailleurs pour la société de l'information, parce qu'en restant connectés en permanence, on va générer des masses de données qui sont par la suite utilisées et évaluées, etc. Donc tout ça, l'écosystème est celui-là, ce n'est pas un autre. On nous présente les vidéos comme si on était toujours des pionniers de renouveau informatique, de l'enseignement, etc. Pas du tout. Et je ne vais pas rajouter la cinquième figure professionnelle ici, qui est plutôt celle de l'esclave informatique, celui qui est contraint de générer des données, même au bureau, même dans sa chambre à coucher, même à l'école. Donc, mais c'est... Je ne suis pas particulièrement polémique. Hein. Moi, je respecte la complexité. Je veux que la complexité du problème soit respectée. Donc, j'ai des éléments de consensus. Je vais vers Mme Maquet pour la définition. Est-ce qu'on va créer tout simplement des personnes qui sont capables d'interagir avec des interfaces? Si c'est ça le but de l'éducation nationale. Mais il faut le dire. Donc, on va embaucher M. Gauthier, dans ce cas, et on va lui donner, je pense que c'est une chose absolument faisable. On va lui donner la tâche de définir un programme d'éducation à l'interaction avec les interfaces, qui consiste essentiellement à les puiser dans des librairies très riches et sympathiques, des comportements qui peuvent être plus ou moins, voilà, c'est un peu pour faire tentative d'erreur, vont permettre de contrôler des bras mécaniques, etc. Ce qui est super, j'insiste, c'est vraiment super de pouvoir avoir des enfants faire ça, mais c'est une tâche qui est tout à fait particulière, on n'a pas besoin de codage pour ça. On n'a pas besoin de... On a juste besoin de mettre les enfants devant. On n'a même pas besoin d'enseignants. On n'a même pas besoin de mettre ça à l'école. Excusez-moi. L'école peut s'occuper. Comme tout ça est fait très très bien par les tutoriels de YouTube, mais les censeurs aux tutoriels de YouTube, si les enfants sont capables de faire ça de façon autonome, comme on semble qu'on est en train de nous dire, ben sortons tout ça de l'école. Et d'ailleurs, je termine... Test and learn, c'est freiné, c'est Montessori, on les connaît depuis un siècle et demi. On n'a pas besoin d'arriver. Est-ce qu'on peut le décliner dans les interfaces d'aujourd'hui? Il faut voir ça au cas par cas. Il y a des interfaces qui sont meilleures pour l'apprentissage test and learn, des interfaces qui ont été pensées pour l'apprentissage, des interfaces qui n'ont pas été pensées par l'apprentissage, donc il y a juste la réappropriation. Mais est-ce que, comme on est dans une logique d'optimisation, finalement, parce que le temps des enseignants et des étudiants est compté, est-ce qu'on peut vraiment s'approprier de YouTube, ou est-ce qu'on n'a pas intérêt à générer des interfaces plus intéressantes qui permettent le feedback, par exemple, sur votre apprentissage, qui vous permet de... Et donc, de nouveau, c'est la normativité qui entre en jeu. Et il faut évaluer, il faut savoir évaluer la capacité qu'ont certaines interfaces d'améliorer un parcours de connaissances.
Il y a plein de choses à dire, alors il faut choisir. En fait, je ne suis pas d'accord sur certaines choses. Je pense qu'il y a un vrai danger avec le test and learn. Alors, une chose... En fait, j'aime pas cette interface. Je trouve ça pas terrible. Parce que c'est une interface, il faut faire ça, après faire ça, après faire ça. Et la personne qui le suit apprend rien. Il n'y a pas de connaissance derrière, c'est pas un système, c'est arbitraire. Alors, on peut le faire, et on fait ça, et on fait ça, et ouf, ça marche, et cool. Et après, au fur et à mesure, on commence à comprendre comment ça marche. Mais il n'y a pas une profondeur. Ce n'est pas comme apprendre comme l'ADN marche pour faire des trucs. Il n'y a pas une structure derrière qui est plus profonde. Et je pense que ça, c'est ce qui se passe entre vous deux. Il y a cet aspect, ce que j'aime beaucoup, et je vois avec mes enfants aussi, ils sont toujours... c'était la vision ce qu'on avait avec Ivis au début, dans les années 80, et pour communiquer avec mon patron qui m'a hurlé contre moi. Il a pensé que j'étais bête pour proposer que les gens peuvent apprendre des choses avec l'ordinateur et la vidéo. Et vraiment, ce n'était pas dans son esprit. Et maintenant, c'est impossible de ne pas penser que c'est possible. C'est-à-dire, on a perdu cet esprit de lui il y a 30 années. mais, il y a aussi le fait que quand tout le monde met leur petite recette sur YouTube, c'est n'importe quoi. Et moi, je pense que c'est important de donner aux enfants comment savoir quel est bien, quel est moins bien, et vraiment juger la qualité de ce qu'ils font. J'aime beaucoup cette idée qu'il y a plusieurs perspectives, ils regardent, mais aussi les données, alors, aussi la profondeur, la base, où ils peuvent construire et faire du making, et aussi juger la qualité de ce qu'ils voient. Et là, pour moi, c'est plus l'école qui fait ça, et moins cet aspect interactif pour jouer avec. Là, ils vont faire eux-mêmes. C'est pas pour nous de demander.
Je fais très, très très court. Moi, mon propos, il est essayer de voir comment on arrive à capter et comprendre ces comportements pour s'en servir, entre guillemets, comme des leviers facilitant l'apprentissage. Alors, effectivement, c'est une pensée normative. Ce que je vous ai montré sur Aldébaran, j'aurais pu prendre d'autres exemples. Ce que j'ai souhaité montrer, c'est qu'il y avait 3 voire 4 niveaux d'outils d'apprentissage. Jusqu'à manipuler le robot sans du tout manipuler l'ordinateur, qui est un autre degré d'entrée. Et puis, je vous ai montré le premier slide, qui était « Je ne rentre que par le code ». Ce que je trouve intéressant, c'est de construire tous ces systèmes qui permettent, en fonction de sa culture, en fonction de sa connaissance, de rentrer avec telle ou telle clé et finalement de progresser avec son niveau. Donc, je suis complètement d'accord pour dire « Attention, sur YouTube, il y a tout n'importe quoi ». Moi, j'étais juste pour faire un constat d'un point de vue du design en disant « Il se passe des évolutions de comportement. Qu'est-ce que l'on fait de ces évolutions-là » certains moments, on s'en sert comme des leviers qui vont faciliter l'apprentissage. Et d'autres moments, effectivement, on y met aussi des règles, des freins en disant « c'est pas par là que ça doit se passer ». Ça me faisait penser à une conférence que j'ai vue d'Idriss Aberkan, je ne sais pas si vous voyez, qui est chercheur à Centrale Supélec, qui parle de tous les freins que l'on a, quels que soient finalement les âges, de l'innovation. C'est-à-dire, au départ, on dit qu'elle est folle, après on dit qu'elle est dangereuse, et après on dit qu'elle est indispensable. Moi, la question que je me pose, c'est on est à quel moment? Voilà. Elle est plus folle, vous l'avez dit à l'instant. On est en train de débattre de ces frontières, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui n'est pas dangereux, et je pense qu'en quelques années, on dira, mais c'était une évidence. Voilà.
Alors, merci, effectivement, pour tous ces éléments. Je pense que un des points qui nous importe beaucoup, c'est de bien placer, effectivement, l'école et la médiation des enseignants pour ne pas vivre avec cette idée médiatique je dirais qu'il y ait de l'école sans l'école, les jeux qui apprennent, voilà, et on est dans une espèce de mécanique avec de jolis designs, je suis désolé, mais on a fait la démonstration ici d'un certain nombre d'éléments. On a évoqué aussi les évolutions du côté de l'ordinateur, de la mobilité qui accroît aujourd'hui ces éléments, et du web, l'interaction à un moment, on l'a effleuré, mais en fait c'est bien la conjonction des deux, de ces évolutions plus du web, qui fait qu'aujourd'hui, donc le anywhere, anytime, any device, voilà, c'est le, n'importe quel support, n'importe quel temps, n'importe quel lieu, on est connecté, on va se connecter, et ça donne effectivement, alors je ne sais pas si c'est la vraie, enfin c'est une représentation que c'est en segmenté, je ne suis pas sûr que ce soit la même représentation pour tous, et forcément la même conduite pour tous. Il y a encore effectivement des temps scolaires, des durées, des découpages, même s'il y a des regroupements, même s'il y a des enseignements pratiques aujourd'hui interdisciplinaires, même si voilà, il y a des temps, je pense qu'on essaie de combiner au mieux, et ça c'est important. Enfin, l'autre point que je voudrais souligner, c'est dans ce que l'on veut pour la programmation informatique, la culture numérique, c'est bien de combiner les deux aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaie, ce qu'on a essayé de faire à travers les projets des investissements d'avenir qui sont soutenus, en tout cas ce qu'on essayait de faire, pas seulement éducation nationale, mais en interministériel, d'avoir effectivement des projets qui permettent de réfléchir en même temps que l'on propose des actions, des apprentissages, mais de ne pas les déconnecter, de ne pas effectivement être dans le coder pour coder, ça, c'est des choses qui me fait... Alors, on est pas là pour produire, j'ose espérer vous rassurer, des esclaves de l'informatique. Par contre, ça nous interroge aussi que toutes ces traces qui sont récupérées et toutes ces données personnelles, etc., c'est un autre sujet qui est absolument à traiter en même temps.
Bonjour, donc je suis Pierre Chouniquin, je suis professeur d'informatique à l'Université de Grenoble, un des intervenants cet après-midi, et je travaille en recherche depuis longtemps sur l'utilisation de l'informatique pour l'enseignement et l'apprentissage. D'abord, je voulais faire une remarque sur la dernière partie d'exposé qu'on a vue. En fait, quand vous dites c'est une interface qui n'est pas du codage, en fait, c'est une interface de codage, c'est simplement du codage à un plus haut niveau d'abstraction, c'est tout. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer dans des lignes de code, on rentre dans des patterns, des structures que l'on peut organiser. Donc, c'est effectivement du codage, c'est simplement un plus haut niveau abstrait, et ça peut être parfaitement pertinent d'enseigner des choses à ce niveau-là. Mais là, je reprendrai la critique qui vous a été faite par vos voisins, c'est-à-dire test and learn, on a bien vu le test, on ne sait pas s'il y a du learn.
Alors, oui.
C'est ça le problème.
Et
quand on parle de YouTube, et alors, j'étais un peu surpris par le qualificatif normatif qu'a fait votre collègue sur le truc. Il me semble que, voilà, si on apprenait avec des vidéos, ça fait quand même longtemps que la télévision existe. Et ça fait longtemps qu'il y a des chaînes éducatives, enfin ici au Québec, enfin ça a été exploré, etc. Donc c'est un peu chaque nouvelle techno, chaque fois qu'il y a un nouveau lien technologique, hop, c'est la nouvelle vague, c'est super, et derrière, il n'en sort pas grand-chose. Et chaque fois, c'est un petit peu le même problème, d'abord parce qu'on va trop vite, on passe d'un concept à un autre, et ensuite parce qu'on ne mesure pas les choses. Donc quand vous dites qu'ils regardent 5 vidéos et que ça veut dire qu'ils prennent différents points de vue de conception, enfin, c'est une hypothèse. En fait, peut-être qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent dans la dernière, peut-être qu'ils apprennent rien du tout, enfin, on ne sait pas bien ce qu'ils font. Donc il me semble qu'à chaque fois, c'est des problèmes de mesure des apprentissages. Et on est trop souvent dans soit le côté technologique, c'est une nouvelle techno, donc c'est super, soit le côté anecdotique. Ça va rester un petit peu dans votre exposé, où on parlait de mes enfants, mon conjoint, mes parents, etc. Et en fait, on manque tout bêtement de données scientifiques qui permettent de dire, ben voilà, là, il y a apprentissage et voilà ce qui est appris. Et juste pour terminer mon point, j'étais vraiment d'accord avec la façon dont M. Casati a pris le problème, c'est-à-dire quels objectifs pédagogiques on doit se donner. Et de ce point de vue-là, je vous proposerai un autre type d'objectif qui n'est pas le codeur, pas le citoyen codeur, mais résolveur de problèmes. Résolveur de problèmes. Et l'apprentissage de la programmation, plus exactement, avec mon intervention cet après-midi, c'est sur la pensée informatique. L'apprentissage de la pensée informatique, c'est un moyen de former les gens à la résolution de problèmes. Et là, on est sur une compétence générale qui fait partie des programmes de l'éducation nationale. Et où une hypothèse, et en tout cas c'est une hypothèse qu'on va tester dans un des programmes IFRAN, alors je suis comme vous, je suis porteur d'un programme IFRAN, on va tester à travers l'enseignement de la pensée informatique, si ça permet de faire progresser les élèves en termes de résolution de problèmes.
Je vais apporter juste une réponse. Tout à l'heure en introduction, je vous disais, je vous conseille, si vous avez le temps un jour, d'aller passer une demi-journée à l'atelier des enfants d'Aldébaran, c'est ouvert à tous. À Issy-les-Moulineaux, et vous verrez la façon dont la notion du learn s'installe en boucle itérative et qu'est-ce qu'ils en tirent dans la progression et l'apprentissage. Moi, l'objectif, je n'ai pas cité l'objectif que l'on vise quand on fait ce genre d'approche, il est très très simple, il est d'augmenter la créativité. Moi, le seul objectif que je veux viser, c'est quels sont les outils qui permettent d'être plus créatif, parce que je pense que l'on manque considérablement d'ouverture et de créativité. Bien souvent, enfin moi je l'ai vu dans certains contextes, dans certains projets, les frontières sont telles que de façon inconsciente on s'interdit de penser en dehors de la boîte. Et je pense qu'aujourd'hui on manque considérablement de créativité. Donc moi l'objectif, dès lors que l'on développe ce type d'approche, c'est de donner la capacité à construire des choses, à expérimenter et d'augmenter la capacité créative des enfants. J'irai pas plus loin sur l'objectif parce qu'après je ne suis pas évidemment compétent pour parler d'autres objectifs que ceux de la créativité quand je parle du point de vue du design.
Madame Mackay et Monsieur Cazette ont pu réagir.
Je pense, oui, c'est très 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 difficile de mesurer la créativité. C'est quelque chose, ce qu'on commence à faire, mais c'est pas facile. Maintenant, je prends mon chapeau chercheur. Et par exemple, on a fait une étude de toutes les premières 9 ans de Thingiverse. Thingiverse, c'est les makers qui postent ce qu'ils font dans les Fab Labs et tout ça. Et on a regardé, et à un certain moment, ils ont. En fait, on a regardé chaque personne qui a pris et augmenté une création de quelqu'un d'autre. Alors, plein de gens qui juste recréent la même chose, et toute petite partie qui fait quelque chose de nouveau. Et on a analysé tout ça, et ça fait des milliards de données. C'est énorme comme base de données. Alors, c'est une question de visualisation des données et tout ça. Bref, ce qu'on a appris, c'est que si on donne aux gens, avec l'idée qu'on va augmenter la créativité, un système paramétrique où on peut juste avoir une série de sliders pour changer quelque chose, en fait, il y a une réduction du niveau de créativité. En fait, les gens, jusqu'à ce moment-là, il y avait plus de choses originales, et après, ça a diminué. Et il y a des études en psychologie assez récentes qui montrent que si on monte un enfant, comment le faire? L'enfant va apprendre comment le faire. Si on montre qu'il y a un problème, il faut résoudre, ils sont plus créatifs. Alors, c'est vrai qu'on peut vraiment regarder dans les petites expériences et aussi dans les grandes expériences sur le web, ces aspects. Et il y a, ça c'est encore l'un des dangers avec le YouTube, c'est... Et voilà, il faut le faire comme ça. Et peut-être qu'il y a plein d'autres possibilités. Et il y a un manque de profondeur derrière. Comment ça marche réellement? C'est le danger. Je n'ai pas de solution magique, mais c'est une bonne remarque, je pense.
Très rapidement, je continue à faire des petits amendes honorables. Donc je dis citizen coder, ça va, problem solver, c'est parfait. C'est exactement l'idée, en fait, qu'on forme. C'est un élément de la culture qui semble manquer. Dans l'éducation en général. Donc, c'est de créer des profils ou des compétences vers la solution des problèmes. L'évaluation, un problème très important, peut-être on va échanger quelques notes sur la façon dont on va évaluer nos projets respectifs, mais c'est extrêmement compliqué, même avec des interfaces facilement paramétrables comme celles qu'on utilise pour notre propre expérience. C'est très très compliqué, enfin, les psychologues expérimentaux le savent très bien, d'obtenir des résultats significatifs, surtout dans des contextes qui sont aussi difficiles pour l'éducation nationale, par exemple, là, je parle plutôt de l'université. On voulait tester sur des sujets qui sont les étudiants de médecine en première année qui passent un concours à la fin de l'année. Et on ne peut pas faire des groupes de contrôle parce qu'il y a une égalité de traitement qui est imposée. Et donc, on peut tout simplement pas. Enfin, il y a des difficultés à trouver des populations qui sont. Dans des cas même très simples, là c'est des quiz, tout simplement. Créativité, dernier point. Alors là, c'est une chose que j'ai étudiée encore relativement à fond. Il y a une forte corrélation entre créativité et expertise. C'est le seul élément robuste de la psychologie de la créativité qu'on a pu déceler. Vous travaillez dans l'ingénierie navale, enfin, l'innovation est très fortement influencée par l'expertise. Enfin, vous faites des choses nouvelles si vous êtes vraiment à fond. Enfin, je pense la façon dont Tabarly a innové dans la création de bateaux très complexes, etc., c'est le résultat d'une très forte expertise. Et on ne peut pas faire l'économie d'expertise. C'est ça un point qui me semble très important. On n'a pas, comme on n'a pas des tablettes magiques, on n'a pas non plus un système magique pour augmenter la créativité de nos élèves. Il faut, pour être créatif, devenir expert en quelque chose. Une fois que vous êtes expert, vous serez créatif dans cette chose. La chose qu'on peut faire dans le système éducatif, c'est de ne pas décourager la créativité. C'est un point très important, c'est qu'on fait malheureusement, très, très souvent. Mais on ne peut pas vraiment l'augmenter, sauf faire un investissement sur l'expertise. C'est un point sur lequel je crois. C'est un mythe que de pouvoir avoir la recette pour augmenter la créativité, comme le mythe des natives numériques. C'est un des mythes qui m'intéresse.
J'adhère, je rajoute quand même un point, c'est que je pense, je vais reprendre l'image que vous avez prise d'Éric Tabarly, qui a été le premier à imaginer, donc à faire acte de création pour dire que ce serait bien que mon bateau il survole l'eau et qu'il ne soit pas dans l'eau, tout simplement parce que j'aurai moins de résistance à l'avancement, je ne subirai pas la houle, j'irai plus vite. On a mis 30 ans à le faire réellement, c'est-à-dire qu'il a fait acte de création, il est allé dans un univers où on n'y était pas, on n'avait pas le savoir. On a développé l'expertise avec les matériaux composites, avec le calcul à l'élément fini et tout ce qui va avec. On a développé le savoir et 30 ans après, je vous annonce que là, dans 15 jours, au prochain Vendée Globe, il y a 6 bateaux qui partent avec des foils en solitaire, 60 pieds, 18,60 m en solitaire autour du monde avec des bateaux à foil. Il y a 3 ans, on aurait dit c'est impossible. Donc, il y a un moment donné, être créatif, c'est Kennedy qui dit dans 10 ans, on ira sur la Lune, on ne sait pas comment on va y aller. Mais il donne un objectif, il fait, Tabarly a fait un acte de créativité et on s'est mis tous autour de la table pendant 30 ans à essayer de faire des choses réalisables. Donc j'ai un tout petit peu plus nuancé, c'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec vous, la créativité ça nécessite une expertise, mais de temps en temps la créativité aussi, la créativité booste le savoir parce qu'on a envie d'aller explorer des univers que finalement qui sont inaccessibles.
Comme je suis dans ma journée consensuelle, j'accepte.
Peut-être juste une dernière partie de ma part avant de vous donner la parole, et pour être sur des choses peut-être terre-à-terre, parce que voilà, on a les pieds dans la glaise, il y a tout un tas d'enseignants qui sont sur le terrain et qui sont eux aussi créatifs et qui eux aussi développent donc, la démarche d'investigation qui est dans les programmes, qui développent des stratégies pédagogiques pour autour de cette démarche d'investigation. On a en fait... X choses et X exemples pour ne pas, effectivement, je dirais, empêcher la créativité des enseignants, mais le tout ramené à nos référentiels, parce qu'on est dans un cadre, parce qu'on fait société, et qu'il y a ces éléments, et parce qu'on veut, effectivement, merci d'avoir rappelé la télévision scolaire d'il y a un certain temps, voilà, parce qu'on sait qu'il y a une richesse des médias, utilisable, mais qu'on n'apprend pas nécessairement. Et moi, ce qui m'importe vraiment beaucoup, c'est de voir, quels que soient les types d'apprentissage, quelles que soient les ressources, qu'on soit dans du classique ou de l'informatique, le tout baigné dans un environnement numérique aujourd'hui qu'il nous faut prendre en compte. Il faut absolument pouvoir donner la main et laisser la main à la médiation, d'où j'aime beaucoup ce que vous dites sur, attention, quand on donne des recettes toutes faites ou quand on donne des recettes qui inspirent avec certains outils, tout le monde le sait, c'est la critique de par exemple, du récit de la Genèse en 10 bullet points donne des choses catastrophiques. Ce sont un certain nombre, y compris quand nous avons essayé de travailler depuis des années sur certaines grilles de référence. J'emploie souvent cet exemple-là, et je vais passer sur quelque chose de classique et qu'on pourrait automatiser encore plus avec le numérique et avec l'informatique, à savoir la fameuse introduction qui permet de poser un problème, qui permet d'analyser des termes de sujet, de poser une question. Voilà, je vais rester très simple au niveau de collégien, par exemple, et de dire comment on va essayer de résoudre le problème par un plan. On peut très bien avoir l'ensemble des éléments, on pourrait les cocher, alors soit avec les aiguilles du temps passé, soit avec tout simplement. Et puis, on a des gens qui, on validerait, il y a bien les 3 éléments, si on prend uniquement ces 3-là, mais rien ne me dit effectivement du niveau de langue et du charabia que je peux avoir dedans. Donc, en fait, c'est tout ça à la fois qu'on a à gérer aujourd'hui avec l'univers dans lequel on est, où il y a effectivement du design, du marketing, du commerce pour les uns, des intentions de construire une société et des apprentissages pour tous. Et le pour tous est aussi important, y compris dans le équiper tout le monde. Voilà, ça fait, voilà, c'est véritablement cette... écosystème dans lequel on est, qui a un certain nombre d'éléments assez compliqués, assez complexes, et d'où l'intérêt de nos échanges ce matin pour qu'on prenne un petit peu de distance. La parole est demandée dans la salle.
Bonjour, moi je suis éditeur scolaire, je n'ai pas de compétences.
compétences, enfin éditeur d'ouvrages scolaires, je n'ai pas de compétences spéciales en informatique. Je trouve que ce que vous dites est très riche et intéressant, mais en même temps, on oublie certaines réalités. On parle de génération X, Y, Z, il y a quand même de fortes disparités sociales dans notre pays. Les makers, ce n'est pas l'ensemble de la population. Des études récentes montrent que l'école peine en France à gommer les inégalités sociales. Est-ce qu'elle réussira à le faire dans le domaine du numérique? Est-ce que le numérique l'aide à aller dans ce sens-là? Je ne suis pas très convaincu, même si on voit des expériences très intéressantes, sachant notamment que les instituts, les professeurs des écoles, pardon, et la plupart des professeurs de collège n'ont reçu aucune formation aux outils numériques que vous avez évoqués. Et si on parle aujourd'hui de Scratch à l'école, je pense que c'est difficile de l'utiliser comme outil d'apprentissage disciplinaire en mathématiques, en technologie ou dans d'autres disciplines, quand en même temps on a à construire l'usage de ce langage et de ce logiciel qu'on ne connaît pas, enfin, pour un enseignant.
Je serais plus mesuré que vous sur ces éléments-là. D'une part, parce qu'il y a un certain nombre de formations qui ont été mises en place. Alors, je ne vais pas vous dire de manière homogène, et parce qu'il y a aussi dans chacune des académies ces plans de formation. Alors, sur ce sujet-là, sur les nouveaux programmes, parce que nos enseignants de mathématiques, de technologie, pour prendre ceux qui vont être confrontés immédiatement à l'enseignement, effectivement, des éléments de l'informatique au collège, ça fait un petit moment quand même qu'une partie d'entre eux, et par leur formation et par leur réflexion, je dirais, voilà. Donc je suis moins pessimiste que vous. On n'a pas, effectivement, si c'est pour dire... Enfin, je réagis parce que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, c'est on n'est pas formé. On n'a pas de matériel, ou on n'a pas tel type de matériel, alors que le projet, c'est qu'est-ce qu'on veut apprendre, qu'est-ce qu'on veut enseigner. Enfin, on revient aux fondamentaux, quel est le projet, et je peux vous le faire avec du numérique, sans numérique. Alors, sans numérique, ça sera difficile sur certains sujets. Hein. Je veux dire, si je vais de mon côté, à travers donc des solutions qu'on a amené petit à petit, je pense à quelque chose qui m'est assez cher, qui est le programme EduGéo. Donc, vous connaissez peut-être le Géoportail au niveau national, mais l'IGN a développé avec nous un certain nombre d'outils qui permettent effectivement d'apporter sur une même page, je veux dire sur un même écran, plusieurs supports, travailler les échelles, annoter, penser, construire, résoudre les problèmes, voire effectivement construire la citoyenneté qui fait que, j'ai pas employé le mot de système d'information géographique, mais juste là derrière, en fait, qui va permettre, voilà, tout ça c'est fait avec une formation progressive, avec plein de volontaires, avec des gens, et en fait, c'est aussi mis à disposition, et le travail des enseignants est aussi de recevoir des informations, d'échanger, enfin voilà, c'est tout notre travail de réseau, voilà, je réagis un tout petit peu, et je me réveille et me passionne, je dirais, en disant qu'il y a tout un travail que nous n'exposons pas nécessairement médiatiquement, ce qui peut effectivement donner la place à d'autres éléments médiatiques. Je ne voudrais pas me mettre à dos des gens de la profession des médias s'il y en a dans la salle, mais souvent lorsque nous devons répondre en oui ou non, en blanc ou noir, à un problème complexe et en 30 secondes, on se retrouve dans la position du chercheur qui lui nous dit, quand on lui dit mais on voudrait des résultats pour pouvoir travailler des indicateurs l'an prochain. L'an prochain, c'est pas sérieux si on veut avoir une cohorte et qu'on veut... Or, le temps de tout cela, voilà, on doit combiner tous ces temps. Et donc, voilà, il y a et de la formation qui se met en place. Il y a de la formation de formateurs à travers, effectivement, les projets de l'INRIA, Classe Code, à travers le code, École du Code. Voilà, les noms, je vais les oublier, Déclic du numérique, voilà, tout ce qui a été... Ça a été, voilà, en investissement d'avenir, pour une fois, et chaque fois qu'on est en programme d'investissement d'avenir, on a évoqué les programmes aussi de IFRAN. On est sur 36, 48 mois, en général, lorsqu'on a développé, et sans être sûr que nous serions à aboutir sur tous les sujets des investissements d'avenir en e-éducation, Avec effectivement des. Ça peut aller de du jeu dans les apprentissages, à l'utilisation des tablettes, l'écriture sur tablette, les chaînes d'édition justement, la distribution des ressources, l'utilisation de LMS, etc. On s'est toujours donné du temps. Et lorsqu'on m'a dit, mais. J'ai ce souvenir d'une critique journaliste, m'a dit, mais pourquoi tant de temps? On sera dépassé, on n'aura plus les mêmes. Mais c'est le projet, et c'est vérifier, c'est se donner les moyens de vérifier, c'est se donner les moyens d'itérer, y compris avec les usagers cette fois-ci. Alors je ne vais pas dire qu'ils avaient forcément, mais le fait de dire on veut des démonstrateurs, un peu comme on l'a dans le programme IFRAN, même si effectivement parfois il y a quelques difficultés à trouver comment ne pas perturber trop la machine dans ses règles d'équité, on va dire. Qui sont définis. Mais cette idée de dire vous allez pouvoir itérer, de s'appuyer sur nos délégués académiques au numérique pour trouver des terrains d'expérimentation, voilà, tous ces éléments-là, depuis 4-5 ans, je pense qu'on bouge, on essaie, mais voilà, et sans donner une grande médiatisation nécessairement, puisque nous travaillons, et quant à la recherche d'indicateurs, même si on utilise des indicateurs OCDE, PISA, autres, voilà, il y a toujours beaucoup à dire sur le choix et la construction d'un indicateur, de toutes les manières. Mais il est évident qu'on essaie de penser l'expérimentation, sa capacité à être généralisée, le terrain effectivement qui permet de vérifier, des possibilités de bouger les solutions et d'adapter les solutions pour donner les bonnes recommandations. Il ne se passe pas un seul moment sans qu'on nous dise à la fois soit vous êtes trop normatif, soit parce qu'on donne des recommandations. Et dans le monde de l'édition, vous le savez, parce qu'il y a des appels à projets ou des marchés automatiquement. Et cela bouge également et cela inclut un certain nombre d'éléments, jusque et y compris un autre élément qui peut faire partie du débat de ce jour, à savoir comment on rend accessible. Les petits scratchs et autres que j'ai vus tout à l'heure, donc la question de l'école inclusive. Voilà, il y a plein de sujets à la fois auxquels on est confronté pour prendre tous les éléments qui entrent aujourd'hui dans ce que l'école entend faire, veut faire, sans laisser le terrain automatiquement, je le redis parce que pour moi c'est un point important, sans laisser le terrain et se dire, bon, on va laisser, parce que c'est une tentation qu'on disait, on pourrait laisser à l'extérieur tout faire. Non, mais je ne traduis pas, mais il y a cette tentation que, voilà, l'idée de l'école sans l'école me perturbe un peu, et c'est pas en prenant les exemples des quelques, parce que ça aussi on nous le renvoie fréquemment, à savoir l'exemple de ces grandes personnalités de la Silicon Valley qui n'envoient pas leurs enfants, qui n'ont pas d'écran. Hier encore, j'entendais un développeur de jeux intelligent, un vrai jeu mathématique, dire « Non, mes enfants, surtout pas j'ai un problème. J'ai un problème. »
C'est plus une question qu'un commentaire. Mais on parle de l'informatique, comme c'est du codage, des choses comme ça, ou le scratch, des choses. C'est les objets, c'est les procédures. Mais pour moi, ce qui manque, c'est le fait que les enfants, surtout mes enfants, quand ils étaient à l'école en France, et on a passé 2 ans à Silicon Valley. Et dans les écoles publiques, on voit une grande différence. Et je vois ça, moi, j'ai, comme j'ai dit, 2 masters, et on a des gens qui viennent partout du monde, les Français, mais aussi les Européens, les Asiens, de tout le monde. Et ce que je vois, c'est qu'il y a un manque de faire ce que j'appelle la recherche. Ça veut dire travailler en groupe, proposer un projet, questionner la proposition, parce que ça, c'est un truc, ce que j'aime beaucoup avec le design thinking, c'est pas juste quelqu'un dit, voici le problème, il faut le résoudre, mais de poser les questions, est-ce que ça s'est bien posé, cette question? C'est critique. Et c'est cette capacité de jouer avec, c'est vraiment du design thinking, c'est comment je peux poser des questions et résoudre les problèmes, c'est un problème solveur, avec des autres, parce que je n'ai pas toute l'expertise moi-même, jamais, il faut travailler avec les autres. Et c'est ça qui manque. Et si l'informatique est une partie parce que ça aide à faire l'exploration, tant mieux. Mais pour moi, la partie qui manque, ce n'est pas une question de sujet ou matière, c'est l'approche.
C'est un problème de... Je peux intervenir. Un problème de design institutionnel. Tant qu'en France, les élèves seront valorisés que par la note,
ouais,
il n'y aura aucune possibilité de développer ce genre de discours. Il faut imaginer de façon de valoriser le travail des élèves aussi par une récompense en soi que de travailler ensemble. Mais tant que la valorisation ne sera faite que par la note, il y aura toujours ce problème.
C'est juste là.
Aujourd'hui, effectivement, comme le système, je dirais, se réforme et prend en considération beaucoup d'éléments à la fois, c'est quand même le sens d'un certain nombre de travaux interdisciplinaires, quels que soient les niveaux, etc., qui ont été... C'est le sens de redonner un petit peu de temps. Je dis bien un petit peu, parce que voilà, c'est la part, et chacun le sait, entre la part des apprentissages disciplinaires, c'est comment aussi compter sur... les expériences qui ont lieu dans l'ensemble des établissements où on n'a pas forcément, on n'attend pas forcément qu'il y ait une grille horaire pour dire on a un projet et on voudrait travailler à deux avec les élèves de classe. Tout ceci, voilà, ce sont tout un tas de micro-éléments dont l'institution effectivement ne s'est pas complètement saisie, sauf à dire on va donner des temps, on va essayer d'introduire des temps, c'est le sens aujourd'hui de la réforme. Voilà, travaillons autour de cela, et quant à la question, s'interroger sur, ça se fait pas mal dans beaucoup de disciplines, mais dans le champ disciplinaire, pour mettre à distance critique, nous sommes quand même, en France, je crois, les champions de la mise à distance critique d'un certain nombre d'éléments, et ça se fait comme cela. Donc effectivement, là encore, ce que je retiens de ce que vous venez de dire, c'est pas forcément enseigner la programmation informatique et la pensée informatique comme une discipline, mais bien se servir de ces besoins ou de ce qui est en train de devenir des évidences. Je vais après, je pense que dans la salle, certains disent mais ça fait un long temps qu'on travaille à essayer d'expliquer pourquoi il faut introduire et pourquoi certains d'entre nous pouvons dire... enfin, ça fait partie. Moi, je viens des humanités, je ne viens pas du monde des sciences et de l'informatique. Il n'empêche qu'on n'a pas attendu depuis longtemps pour dire il y a des lectures, des écritures, et on est du manuscrit, on est du tapuscrit, on est de l'audiovisuel. Voilà, je rebondis sur ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et il y a des grammaires, il y a des utilisations, et c'est comment donner le sens pour que les uns et les autres, des élèves, alors soit avec une pédagogie, alors qu'on appelle aujourd'hui inversée, puisque il y a effectivement de mettre en avant un certain nombre d'éléments, et puis ensuite on travaille autour tous ensemble à la résolution d'un problème ou d'une compréhension d'un exercice. Il y a des éléments également qui étaient de fait, et puis on va voir ce que le numérique ajoute aujourd'hui, et ça je pourrais quand même le redire comme plus-value. C'est que là où je vais prendre trois exemples, en géographie, en cartographie, le croquis de cartographie qui n'est pas simplement colorier une carte. Je veux dire, voilà, c'est pas un exercice de coloriage, sauf si je veux prendre un petit temps, et que je sais pour que je prends un temps de remise au calme, voilà, j'ai créé quelque chose il y a quelques années de ça là-dessus, mais qui est bien apprendre qu'avec des points, des lignes, des surfaces, des valeurs, des intensités, on rédige, on traduit une pensée et une représentation. Il y a cet élément-là, on fait crayon-papier. Mais si je me trompe, je suis obligé de tout recommencer, et je déchire, et je refais, et je... Voilà. Donc là, le numérique apporte la souplance du essai, erreur, voilà. Il apporte également, avec le logiciel de cartographie, une réflexion possible sur c'est quoi la discrétisation, parce que j'avais notamment sur les cartes avec des séries statistiques, voilà, j'ai discrétisé comment, et je vais travailler avec l'enseignant de maths, et je vais pouvoir en fait monter tout un tas d'éléments et réfléchir en fait à ce que je vois et à ce que je vais retrouver dans la presse où on n'indique jamais le système de discrétisation employé sur la carte qui est produite. quand même on oublie parfois d'indiquer les sources. Donc voilà, ce sont tout un tas d'éléments, et avec jusqu'au système d'information géographique aujourd'hui, voilà, quand on a toutes ces couches qui arrivent, et avec l'accès, alors là c'est pas forcément le web, mais l'accès à toute la cartothèque de l'IGN, toutes les échelles possibles, toutes les orthophotographies qui sont spécifiquement recalculées pour que c'est quand même pas... Ça peut être un exercice hein, de données à recalculer. Voilà. Alors, parce que quand on est sur Google, voilà, on sait tous. On peut reprendre des images, on peut les calquer, il y a tout un tas d'outils, mais honnêtement, que de temps et d'énergie, sauf si c'est un objectif d'apprentissage particulier. Donc, voilà, je pense qu'on est dans cet univers-là, et ça se fait et dans les disciplines, et de plus en plus dans la pédagogie de projet qu'on réinscrit. Après, ça ne veut pas dire non plus que cela nie l'expertise des disciplines. C'est vraiment trouver le bon équilibre dans tout cela. Je pense que ça fait partie quand même aussi de ce qu'on essaie de faire. Alors voilà, peut-être moins que dans d'autres systèmes éducatifs, mais en tout cas, je pense que c'est inscrit. S'il y a une autre question...
D'autres questions, d'autres Romains dans la salle ? Christophe Purbeau, délégué académique au numérique de l'Académie de Toulouse. Donc d'abord, merci pour vos interventions. J'ai beaucoup aimé les différences de points de vue. En ce qui me concerne, j'aimerais essayer de vous faire réagir vis-à-vis du thème de la table ronde qui était « Qu'est-ce que je ne dois plus apprendre ?» dans le contexte qui est l'apprentissage du codage. Alors, si je reviens sur l'objectif, me semble-t-il, peut-être qu'Alain pourra me corriger si je me trompe, que la ministre avait posé dans ce contexte, c'était de dire... On considère qu'un élève aujourd'hui, pour qu'il devienne un citoyen responsable demain dans la société numérique où il va vivre, doit savoir comment est fait, comment sont construites, comment sont développés les outils, les contenus auxquels il va être confronté, pour aiguiser chez lui un esprit critique de ce qu'on va lui offrir. Donc j'aimerais vous faire réagir en essayant de faire, par analogie ou par métaphore peut-être, une réflexion autour de... Il y a quelque temps, voire même aujourd'hui, je dirais, on passait un permis de conduire pour conduire des voitures. Ces voitures, à l'époque, quand on avait un démarrage en côte, il fallait apprendre à démarrer en côte, c'était particulier. Donc on avait un apprentissage particulier. Je reviens sur la notion de référentiel d'usage, c'est dans ce contexte que j'aimerais qu'on essaie de réfléchir. On s'embêtait à faire des créneaux à gauche, à droite, en épi. Aujourd'hui, avec l'aide au parking, ça a toujours du sens de l'apprendre ou pas. Et puis si demain, je me projette encore plus loin et puis que je dis, les voitures, elles sont autonomes, on commence à en voir qui arrivent, on n'aura même plus besoin de les piloter, elles se piloteront toutes seules. Donc, faudra-t-il encore passer un permis de conduire? Donc, tout ça pour revenir à la question de la table ronde, c'est l'apprentissage du code, oui. Mais dans ce contexte, par rapport à ce que je viens de vous présenter, est-ce que ça a encore du sens ou pas? Et si oui, dans quel contexte? Est-ce qu'il faut apprendre jusqu'à l'assembleur, revenir au binaire? Ou est-ce qu'on peut, comme le précisait tout à l'heure monsieur, s'arrêter à des langages de très haute génération et faire de la programmation symbolique, voire graphique uniquement?
Qui se lance dans la réponse à Christophe?
Moi, je ne peux pas me lancer dans la réponse, je ne suis pas compétent. Je vais juste prolonger la métaphore, parce qu'en fait, ça fait 5 ans que je travaille avec un grand constructeur automobile sur ce sujet-là. Et je vais juste vous dire là où ça nous emmène. C'est-à-dire que vous avez complètement raison. On a vu aujourd'hui des jeunes, d'abord, passer leur PMI de plus en plus tard. Hein. Aujourd'hui, la moyenne, c'est quand même 27 ou 28 ans, lorsque c'était tout simplement 18, 19 ans, il y a encore 15 ans. Donc ça prouve, un, le désintérêt de ces jeunes vis-à-vis de l'automobile, et deux, qu'ils ont trouvé des solutions alternatives de mobilité, qu'ils n'ont plus besoin de leur voiture. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y en a une grande partie qui nous disent, on nous promettait le véhicule autonome dans 20 ans, il y a 5 ans, on nous le promettait dans 10 ans, et aujourd'hui, on nous dit 2018. À quoi bon de passer mon permis? Donc ça, c'est la réalité, et je suis complètement d'accord avec vous, c'est que aujourd'hui, beaucoup de jeunes attendent le véhicule autonome parce qu'ils n'ont plus envie de passer le permis, ça leur sert à rien. Mais si on va plus loin, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question à quel moment le marché aura basculé. Pourquoi je vous parle de cette question-là? Parce que du coup, celui qui aura un permis sera plus dangereux que celui qui n'en a pas. Et donc, parce que, en fait, les statistiques montrent qu'une personne qui a un permis fait une erreur grave de conduite engendrant un accident corporel tous les 170 000 km, en moyenne. D'accord ? Un véhicule autonome, c'est tous les 10 millions de kilomètres. Donc on va dire que, même si on a vu, là, il y a récemment un véhicule autonome qui a fait un accident, ça fait la une des journaux, c'est toujours dramatique, mais c'est quand même facteur million fois moins. Et donc se posera la question, on est obligé de réinterroger, c'est quoi la norme ? Celui qui aura un permis sera dangereux versus celui qui n'en aura pas. Or aujourd'hui c'est l'inverse, quand vous roulez sans permis, vous êtes considéré comme dangereux. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre comment ça fait évoluer les frontières, les périmètres, et en quoi effectivement la question que vous posez va reposer des questions de fond. Mais moi, je n'ai pas la réponse sur l'éducation.
Sans compter la question quand même de l'intergénérationnel et des continuités dans le temps, enfin, pour faire société.
C'est compliqué. j'ai passé un certain moment à étudier les contrôleurs aériens et cette situation-là. Et là, c'est intéressant parce que si on regarde les pilotes d'avion, jusqu'au assez récemment, c'était les pilotes formés par l'armée ou Air Force. Oui, voilà. Et maintenant, ils ont de plus en plus formé après la... les avions qui sont de plus en plus automatiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on commence à avoir des problèmes graves parce que c'est les gens qui étaient formés dans les simulateurs et tout va bien, vraiment 89,9999% du temps. Mais quand il y a un problème, ils ne savent pas quoi faire. Et j'ai peur qu'on est dans la même situation avec les voitures. C'est que si... C'est sûr, si on dit que ce n'est pas nécessaire de toucher la roue, sauf s'il y a un problème, c'est l'enfer. C'est absolument la pire chose. Parce que ça, si on met l'être humain dans une boucle, on dit la partie en lieu, ça veut dire faire attention, il ne va pas faire. Et la partie répondre dans une crise, ils n'ont pas assez de temps de réagir, c'est un manque de tension, attention. Alors, on peut créer des gros problèmes, et surtout avec cette transition. Alors, le métro ligne 14, ça marche parce que c'est fait pour. Mais cette transition, j'ai vraiment pas envie d'être dans un métro qu'ils ont changé entre un conducteur et ligne 14. Et on propose faire ça avec les voitures. Alors, bon, moi j'ai peur.
Vous avez tout à fait raison. Il y a 5 niveaux. Dans le véhicule autonome. Aujourd'hui, on maîtrise le troisième, on aborde le quatrième, et le cinquième étant l'autonomie totale. Et je suis complètement d'accord avec vous, aujourd'hui, le véhicule autonome n'a de sens que si on atteint le cinquième niveau. Les niveaux intermédiaires sont des niveaux dont on a besoin pour expérimenter, mais commercialement, c'est juste pas possible. Si on délègue et qu'on dit « mais tu dois garder un œil parce que le chaos, c'est toi qui prends la commande », ça ne marche pas. On sait très bien que c'est... Et donc ça pose la question, effectivement, comment est-ce qu'on redéfinit des fondamentaux, mais en allant très loin dans l'objectif, en disant, si c'est cet objectif qu'il faut atteindre, atteignons-le de façon pleine, et qu'est-ce que ça ouvre comme nouvelle perspective, mais avant d'atteindre le niveau 5, ça n'a pas de sens.
Je crois, Christophe, que ça repose effectivement un des fondamentaux sur ce sujet-là, comme sur d'autres, qui est... comment pouvons-nous prendre en compte c'était le thème du Festival de géographie de Saint-Dié, un monde qui va plus vite, et en même temps avoir des référentiels, sauf à dire, effectivement, je pense qu'il est important d'apprendre telle et telle compétence, telle et telle connaissance, tel et tel savoir-faire. Enfin, je ne vais pas décliner les différences entre les uns et les autres. C'est la combinaison du tout. J'ai presque envie de dire, alors est-ce que c'est seulement sur coder? On est bien d'accord que là, tu m'as entendu depuis ce matin dire, je suis à chaque fois mal à l'aise quand on me ramène codage. Il y a programmation et culture numérique, les deux pour moi, enfin avec tous les passages possibles qui sont importants. Je pense qu'il est important d'apprendre aujourd'hui et de laisser dans les références, même des choses qui paraissent ou qui seront accusées assez facilement d'être has-been ou d'être pas assez prospectif. Banque de ressources, deux types de banque de ressources numériques éducatives qu'on vient de lancer, deux types de réactions aujourd'hui. Certains qui nous disent oh là là, c'est compliqué, il va y avoir plusieurs plateformes, plusieurs habitudes, et là le designer qui est à côté de moi te dira, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, je passe avec un matériel, je sais que les boutons sont à gauche, je passe avec un autre matériel, je sais que les boutons sont à droite, il y a les mêmes fonctionnalités, c'est pas forcément souple, mais on s'y fait bon an, mal an. J'y vais, je pense que c'est pas ça l'obstacle, dès lors que j'ai des tâches à faire et que je compte les faire. Sauf si je dis c'est trop compliqué, je m'arrête là. Et puis on a ceux qui nous disent, mais c'est pas assez prospectif, c'est pas assez disruptif, mais on doit conduire en fait... non pas un vaisseau, non pas un des 15, ou j'ai pas entendu, j'ai retenu le nombre de bateaux du prochain Vendée Globe, avec toutes les technologies, toute la prospective, on doit conduire, si on continue sur la métaphore, un navire amiral, une flotte, avec tout un tas de contextes, tout un tas d'éléments, des jeunes gens qui n'ont pas les mêmes âges, on n'apprend pas les mêmes choses, enfin voilà, c'est tout ça qui est à bâtir. Donc peut-être vaut-il mieux se dire, introduisons des éléments d'apprentissage de la programmation informatique, de la pensée informatique et de la culture numérique, même si on nous dit qu'on aura toujours un train de retard par rapport... Après, l'autre question qui a été sous-tendue tout au long de la matinée, notamment grâce aux remarques de M. Casati, c'était de dire aussi, est-ce qu'il faut suivre... Et là, c'est un constat que je pose par rapport au designer qui appuie aussi les stratégies commerciales de marque. On est dans un monde où on a besoin à la fois d'un certain nombre d'outils, d'infrastructures. Tout ça a des coûts, on le sait tous, et tout ça n'est pas neutre. À nous de ne pas nous laisser embarquer, mais je pense que ça, pour des raisons à la fois budgétaires, pour des raisons à la fois surtout raisonner et pas simplement d'enseignants qui sont là à freiner, puisque j'ai bien dit qu'il y avait différents types d'enseignants, j'ai bien évoqué dans la question de formation, on ne peut pas ramener à une homogénéité parfaite, on va dire, on aimerait ramener à dire éducation nationale, et puis il y a un bloc et tout le monde marche du même, je pense qu'on sait bien les uns et les autres que c'est pas aussi simple que cela. Et du coup, je pense qu'il est important, effectivement, d'inscrire ce que moi j'appelle, et j'ai eu un petit échange en amont de la matinée avec M. Chesneau, ce que j'appelle, du point de vue des humanités dans lesquelles je veux placer, l'ensemble des écritures, l'ensemble des compréhensions auxquelles M. Chesneau a rajouté, et ne pas oublier la pensée algorithmique qui, effectivement, est aussi un mode de pensée. Aujourd'hui, effectivement, comme je serais sensible de mon côté au mode de représentation cartographique et pensée cartographique qu'on évoquait tout à l'heure sur la question des espaces. Donc voilà, à la question, je ne suis pas spécialiste, je dirais, pour te dire, est-ce qu'on est déjà dépassé, je pense qu'il est quand même important d'inscrire cela dans les programmes et les intentions de l'éducation nationale aujourd'hui. Mais peut-être que d'autres dans la salle peuvent réagir. On peut prendre une dernière question, une dernière réaction, et puis ensuite je pense qu'on aura mérité les uns et les autres de faire un break, de prendre le temps d'une pause déjeuner. Nous avons alors ce problème de l'informatique et de la pensée informatique, beaucoup de franglais, je vous prie d'excuser cela, mais en même temps, difficile d'évacuer complètement l'anglais.
C'est un tout petit témoignage lié à ce que tu disais il y a quelques minutes. Wendy, tu disais, c'est bien quand on dit à des gens, il y a un problème, plutôt que de... Eh bien, figurez-vous, c'est ce qui s'est passé avec ces initiatives, comme par exemple Déclic numérique, dont tu es la représentante ici, ClassCode, qui va aider les profs à se former, ou École du Code à fournir des ressources. L'État a dit à la société, aux scolaires, aux périscolaires, aux industriels, aux académiques, il y a un problème. Il faut que nos mômes ils puissent maîtriser le numérique. Et ben, jeudi prochain, c'est un flash de pub. Vous allez voir, je ne sais pas si on a les réponses, vous allez voir plein de gens qui se sont rassemblés à décoder le code pour essayer de trouver des réponses créatives, Wendy, à ce problème.
Cela se passe à Saint-Denis, à la maison des... tu as l'adresse? Tant qu'à faire.
Alors moi non, mais mon extension corporelle, oui. C'est à la MHS de Saint-Denis. Mais si vous tapez décoder le code sur Internet...
Bien, ben je pense qu'on peut s'arrêter là pour le moment et se donner rendez-vous à... Ah, une question de plus, possible? Comme tu veux, c'est toi qui nous... Il est midi et quart, donc on a encore une dernière question, ou une dernière remarque, une dernière réaction, si vous le souhaitez.
Je vais faire part d'une expérience pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, si on est dépassé ou pas par un certain nombre d'approches ou d'outils. Il y a 3 ans, j'ai travaillé avec la DCNS, qui est donc constructeur de vaisseaux pour l'armée, notamment les sous-marins, les porte-avions, les frégates, et ainsi de suite. Et j'ai été très surpris parce qu'ils nous ont demandé de réfléchir sur... les outils de l'interaction, tout simplement parce qu'ils ont des simulateurs qui forment les jeunes qui vont être aux commandes de ces vaisseaux-là. Ils avaient un problème, enfin ils ont toujours d'ailleurs, un problème majeur, c'est que les outils qui se trouvent dans ces vaisseaux sont des outils qui sont, comme je prends leur terme, hein, solides, au sens où les technologies sont éprouvées, les technologies fonctionneront dans toutes circonstances, on a 1-2 backups possibles, et ce ne sont pas du tout des technologies dites modernes que l'on a tous dans nos poches aujourd'hui. Et le problème qu'ils avaient, c'est qu'on a des jeunes qui arrivent dans les simulateurs qu'on forme pendant des semaines, et ils ont l'impression, quand ils arrivent dans ces formations, de rentrer dans le 19e siècle. Je reprends les mots de la DCNS. Et quand ils sortent le soir, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils sortent leur smartphone, ils sont connectés avec le 21e. Et donc, finalement, ils avaient un double problème, un problème d'image. Comment est-ce que j'arrive à attirer finalement ces jeunes, parce que je suis en théorie une technologie de pointe, mais j'ai des éléments d'interaction, d'interface qui datent d'il y a 20 ou 30 ans. Je n'arrive plus à les intéresser. Et quand ils sont chez moi, ils sont complètement perdus, parce que leur référentiel d'usage, je reviens à ces éléments-là, sont complètement mis à plat. Ils doivent tout réapprendre avec des solutions qui sont ad hoc. Et dit, on met 2 fois plus de temps à les former, voire même, pour certains, on a... voilà, il y a des réflexes qui ne prennent pas. Voilà, c'était juste un témoignage sur avoir les bons outils au bon moment. Ça ne veut pas dire d'avoir le dernier cri de la technologie, mais je reviens sur cette question de ces référentiels qui sont à un moment donné des facilitateurs.
On parle comme les jeunes maintenant sont plus avancés. Ils savent faire tout avec leur smartphone et des choses. Et ce que je vois, après 30 ans de voir les étudiants qui arrivent, c'est qu'ils sont de moins en moins créatifs. Ils ont leur référentiel, j'aime beaucoup ce terme. Moi, on parle de système co-adaptatif et on adapte à le système et le système, on nous change dans les deux sens. Mais c'est la même chose. Ils ont tous vu le smartphone. Alors pour eux, l'idée, et ils ont tous vu Windows. Alors les systèmes Boxer que j'ai montré, il n'y a pas un Windows. Ils pensent tous qu'il faut avoir les applications. Non, ce n'est pas nécessaire. Il y a plein de choses qui étaient expérimentées. C'est un peu comme, en anglais, on parle de horseless carriage. C'est avant la voiture, on avait des carriages, comment on dit ça? C'est une voiture, en fait. C'est une voiture, n'est-ce pas? Et avec le cheval devant et tout ça, et on lève le cheval et on met le moteur, et maintenant on a un horseless carriage. Mais après un certain temps, ça change, ça devient l'automobile, c'est autre chose, et le moto et toutes les autres choses. Et on est dans une situation où l'idée, qu'est-ce que ça veut dire l'informatique, est très 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 limitée par le fait que les gens, ils ont... leur vue, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça, c'est la raison que j'aime beaucoup toutes les choses physiques et Maker Society et les choses comme le papier électronique, des choses, c'est ça. Ça casse tout cet aspect ordinateur, laptop, iPhone, montre et tout ça, que c'est très fiché. Oui, voilà. Ça, exactement.
Mais par contre, enfin, si je peux me permettre, par contre, il me semble que ce n'est pas parce que les jeunes d'aujourd'hui ont développé de nombreux usages avec les smartphones qu'ils comprennent ou qu'ils connaissent ce qu'ils font avec. Par exemple, je suis persuadé qu'il y a grand nombre d'eux qui ne connaissent pas la différence entre une apps et utiliser une application qui est web responsive.
Oui, c'est sûr.
Par exemple, combien j'entends de gens qui disent j'utilise le NT pour faire quoi? Pour regarder les notes. Mais non, les notes ne sont pas sur le NT, ils sont sur un outil qui est Pronote, et ce n'est pas le NT. Donc j'ai l'impression que ce n'est pas parce qu'il y a l'usage de l'outil ou du logiciel que nécessairement derrière il y a une compétence, une connaissance associée à ce qui se fait réellement. Et donc, dans ma question tout à l'heure, c'était ça en fait, c'était de dire mais qu'est-ce qu'on doit considérer qu'il est nécessaire d'apprendre aux enfants dans le contexte du codage pour arriver à leur inculquer un minimum de connaissances qui va leur permettre d'avoir cet esprit critique ou du moins d'être conscient de ce qu'ils font réellement.
C'est la partie information dans l'informatique. Ça veut dire c'est comment structurer l'information, quels sont les patterns qu'on a vus là. C'est pas le codage de et le syntaxe, c'est qu'est-ce que ça veut dire vraiment et comment réfléchir, pas seulement alors, réfléchir au niveau d'un algorithme, de comprendre qu'il y a un algorithme derrière et aussi un algorithme qui est réactif, c'est pas la même chose qu'un truc qui roule comme ça, et d'avoir une connaissance de toute cette subtilité derrière tous les outils. Utiliser les outils ne donne pas cette compréhension, c'est sûr. Et si on va enseigner informatique, c'est à ce niveau-là, je pense.